Bienvenue sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant ! Hello à vous les vivantes et les vivants ! Comment allez-vous en ce moment ? Avez-vous écouté les deux derniers épisodes que j'ai enregistrés avec Charlie de Libera Verda ? Épisode que nous avons nommé « Radicalement vivant, vivante » dans le monde moderne. Si nos mots ne sont pas encore entrés dans vos oreilles, il faudra aller faire un tour sur ces deux épisodes. Car l'épisode 5 et 6 sont complètement d'actualité, si tu vois ce que je veux dire. À présent, bienvenue dans le 7e épisode du podcast « Je peux pas, j'ai l'une » intitulé « Comment dépasser les blocages inconscients ». Épisode en lien avec les deux derniers, même si le titre ne semble pas te l'indiquer, il est question ici justement de ce qui peut nous empêcher d'être radicalement vivant, vivante, d'être radicalement soi. Sachez, chers auditeurs, auditrices, que j'ai pris grand plaisir à créer cet épisode, car voilà 14 ans que j'œuvre dans la santé, 14 ans que je m'interroge sur l'origine de la souffrance, 14 ans que je m'interroge sur le blocage, source qui empêche d'être pleinement soi. À présent, et après 14 ans d'accompagnement et de recherche, j'entrevois enfin une réponse. Et je ne suis pas la seule, heureusement. Avant moi, des chercheurs, chercheuses en biologie et psychologie ont inventé une nouvelle discipline nommée l'épigénétique. Alors attendez, ne prenez pas peur avec ce mot. Je ne vais pas faire ici un cours complexe de biologie sur l'ADN. En tout cas, pas que. Ici, nous allons nous poser ensemble les questions de l'inné et de l'acquis, de l'impact des événements sur nos cellules, et donc nos comportements, et sur l'origine de nos croyances, et pour finir, sur la liberté de devenir qui on est. Pour commencer, sachez que cet épisode et les suivants, où j'aurai le plaisir d'avoir là encore des invités, sont issus de cette réflexion que je mène sur le fait qu'on ne peut ancrer un monde nouveau sur cette terre sans que chacun, chacune de nous ne se connaisse complètement. Qu'on ne peut vivre en collectif, malgré toute notre bonne volonté, et là-dessus je sais de quoi je parle, si on ne guérit pas nos blessures et celles des générations précédentes, dont nous sommes, qu'on le veuille ou non, descendants. Au moins sur le plan génétique, d'ancêtres qui ont connu la guerre, la famine, la peur, la malveillance, la maltraitance, les souffrances gynécologiques, les violences éducatives ordinaires, à l'école, dans les familles, et enfin, quoi que les politiques, associations ou groupes d'influence font, la violence sous toutes ses formes se perpétue et reste un peu partout non punie. Mais où est donc la paix dans nos cœurs, nos corps et nos relations ? Ces épisodes sont un bout de moi, de mon histoire, et je suis heureuse de vous partager ce contenu, et d'avance, merci de le faire circuler. Nous en avons tous et toutes besoin, le vivant en a besoin. Alors que notre médecine a pour habitude de séparer les choses, considérant à présent que la biologie et psychologie sont deux faces d'une même pièce. Comment nos gènes influent sur qui on est ? Et comment nos expériences peuvent impacter nos cellules, notre être ? En posant ces questions, je dois d'abord définir ce qu'on entend en termes de mémoire, ou devrais-je dire les mémoires. Le Larousse la définit ainsi. Activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. Il s'agit là d'une faculté comparable à un champ mental dans lequel les informations sensorielles, c'est-à-dire pensées, émotions et sensations corporelles, sont engrammées. Chaque expérience sera reliée au réseau neurologique des mémoires associées. Il existe donc plusieurs mémoires qui sont soit conscientes, soit inconscientes, des mémoires faites pour durer, par exemple les souvenirs liés à tous les derniers Noëls, ou des mémoires éphémères, la liste de courses de la semaine passée. Il y a aussi la mémoire explicite qui inclut les souvenirs des derniers Noëls et les connaissances, par exemple. Et la mémoire implicite, c'est cette dernière qui nous intéresse, car celle-ci s'exprime à notre insu. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas, par exemple, pour faire nos lacets. Et elle inclut également tous les souvenirs d'événements induits par un déclencheur, peu importe le déclencheur. Entendez-la, agréable ou désagréable. Cette mémoire semblerait même exister bien avant notre naissance. Revenons à cette information. La mémoire implicite inconsciente pourrait contenir des modifications chimiques qui vont influencer l'expression des gènes, entre parenthèses, sans changement de la séquence d'ADN, qui peuvent être héritées et héritables au moment de la division cellulaire. Autrement dit, ça passe de génération en génération. Entre parenthèses, la science aujourd'hui a découvert que la mémoire, ou en tout cas les modifications chimiques qui influencent l'expression des gènes, peuvent se transmettre jusqu'à 4 générations. Et j'en parlerai plus loin dans l'épisode. Ces changements sont réversibles. Merci l'épigénétique. Cette mémoire, donc, est une mémoire dite traumatique. Définissons à présent la mémoire traumatique. La mémoire traumatique n'est pas naturelle, normale. Elle ne devrait pas arriver. La mémoire traumatique est un trouble de la mémoire émotionnelle. Elle est la conséquence d'événements qui vont créer un choc émotionnel, donc un choc dans le corps, la physiologie, et le psychisme de l'individu, les émotions, peur, stress, choc qui par la suite ne sera pas digéré par la personne. Ce que j'appelle choc émotionnel, c'est une réponse neurobiologique et neuropsychologique faite face à un événement. Ces réponses, pour faire très simple, c'est le combat ou la fuite. Cela fait partie de nous, et ce comportement est très ancien puisqu'il est lié à notre cerveau reptilien. Concrètement, dans cet état de choc, dans cette réponse, choc, le cœur va s'accélérer, la tension artérielle va augmenter, les muscles vont se contracter, l'oxygène disponible va aller vers les organes qui sont utiles à la fuite ou au combat, la vigilance va s'accroître, l'adrénaline va être sécrétée, etc. Cependant, ces réponses face à l'événement stressant peuvent être soit stoppées brutalement par notre physiologie elle-même, afin de nous préserver. Par exemple, si le cœur et la tension s'emballent, ça peut être la mort. Il y a dans ce cas un état de sidération, un figement. Soit, à la fin de l'événement stressant, une incapacité pour la personne à sortir de cet état réactionnel et dans tous les cas, à intégrer le fait que le danger est passé. Donc là, il faut bien comprendre qu'il y a un fonctionnement normal. Il est normal que notre cerveau reptilien et limbique réagissent dans certaines circonstances pour fuir ou combattre. Cependant, à un moment donné, en fonction de l'événement que la personne vit, il va y avoir soit un état de sidération, soit une incapacité à la fin de l'événement stressant à intégrer que le danger est passé. Et la personne va rester dans l'état. Le fonctionnement cortical de la personne n'arrive donc pas à reprendre le contrôle sur les cerveaux limbiques et reptiliens. Autrement dit, le cortex, c'est-à-dire notre pensée, analyse, les intelligences, ne réussit pas à moduler l'activité de ces deux cerveaux, contrairement à ce qu'il fait habituellement. Le dysfonctionnement, entre autres du cerveau limbique, va empêcher l'hippocampe de faire son travail en intégrant le souvenir de façon spatio-temporelle. Action qui, habituellement, se réalise au cours du sommeil. Ce défaut d'intégration va créer un souvenir traumatisant, donc des empreintes biologiques dans les cellules de la personne, appelées également empreintes épigénétiques. le docteur Ariane Giacobino, autrice du livre « Peut-on se libérer de ses gènes ?» paru en 2018, parle même de cicatrices sur l'ADN. De ces empreintes biologiques en résulterait tout un tas de réactions en chaîne qu'on appelle communément en psychologie et dans le domaine de la connaissance de soi, mécanismes de défense, croyances limitantes, hypersensibilité émotionnelle, émotions névrotiques, réminiscences, cauchemars, troubles du sommeil, conduite d'évitement, phobie, anxiété et angoisse, état de stress post-traumatique, troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, voire même dépression ou troubles chroniques de la personnalité. La mémoire traumatique serait surtout liée à l'hémisphère droit et à la cessation de l'activité de l'aire de Broca, responsable de la parole. Dans le souvenir traumatique, la compréhension et le langage sont atteints. Il n'y a plus de mots pour expliquer ce qu'il s'est passé. Pas de mots pour traduire les mots, M-A-U-X, sensoriels, corporels et émotionnels. Le corps et les émotions vont traduire à leur manière ce qui n'est plus nommable. Faisons une pause. Le temps d'intégrer ce qui vient d'être dit. Je te laisse entrer en toi et conscientiser les limitations et comportements qui ne sont pas toi, mais qui pourraient être issus de traumatismes, de micro-traumatismes. Nous sommes en fait tous concernés par le traumatisme, mais pas tous conscients de nos réactions comportementales et émotionnelles. Et il faut savoir que quel que soit l'élément déclencheur, de très faible, par exemple tu paniques en ne retrouvant pas tes clés de maison après une journée de shopping, ou bien ton patron te prend en entretien bilan surprise, ou encore tu esquives de peu la voiture à l'arrêt devant toi, jusqu'à un élément déclencheur de très forte intensité. Tu perds ton enfant dans un parc d'attractions, tu fais un burn-out professionnel, tu subis des violences gynécologiques pendant ton enfantement. Le souvenir traumatique engendra, dans tous les cas, des dégâts sur ton existence. De l'empreinte traumatique résultera forcément des comportements qui tentent de mettre en mots le malaise et d'éviter que la charge neurobiopsychologique se reproduise. C'est comme un mécanisme de protection. Mais comme il y a eu double mécanisme de protection, bien le système ne va plus. La magie de la vie fait que rien n'est jamais acquis définitivement. Et l'épigénétique nous l'explique très bien. Alors, est-il possible de se libérer de ses blocages, de ses limitations, de ses traumatismes, quelle qu'en soit la gravité? Et plus durablement, peut-on effacer les cicatrices biologiques? Oui, nombreuses thérapies psychocorporelles intégratives permettent de métaboliser les informations sensorielles, pensées, sensations corporelles et émotions. Mais d'abord, le processus demande trois étapes simples. La mise en pratique, elle, demande persévérance et courage. La première étape consiste à prendre conscience de qui tu es, de tes peurs, de tes blocages, de l'histoire de tes ancêtres, sur, si possible, au moins 4 générations, et de ce que tu ne veux pas être. La deuxième étape, toujours aussi simple, avoir envie et décider de changer, de se changer, de changer des comportements et habitudes de vie que peut-être tu as depuis de nombreuses années. Ces deux étapes sont très liées, elles peuvent être lentes et parfois fastidieuses, notamment ce qui concerne le changement des habitudes de vie. La troisième étape consiste à trouver tes outils et tes accompagnants, ce qui te permettra de te libérer, ce qui correspond à ta personnalité propre, à ton histoire, à ton énergie. Il n'y a pas deux chemins qui se ressemblent. Ce qui fonctionnera chez l'une, chez l'un, ne fonctionnera pas chez l'autre. Nous verrons dans l'épisode 8 les outils et thérapies qui te permettent de devenir qui tu es. En attendant, je te propose un exercice. Je te propose de prendre un temps d'écriture afin de noter ce qui a été marquant dans ton chemin de vie, autant de façon positive que toxique, et d'inscrire également les trois étapes dont je viens de te parler. Qui tu es? Quelles sont tes peurs, les plus grandes, les plus petites? Où sont tes blocages, ceux que tu repères dans des circonstances qui reviennent toujours? Le truc que tu n'arrives pas à changer alors que ça fait des années que tu essayes. Et, si possible, construire brièvement ton arbre généalogique en y indiquant les faits marquants de tes ancêtres. Une naissance, un changement radical de vie, par exemple, si tu es issu dans une branche de ton arbre d'une famille plus de paysans qui, tout d'un coup, deviennent ouvriers. Ça, c'est un changement marquant dans l'histoire. Concernant la deuxième étape, qu'est-ce que tu es prêt et prête à changer? Qu'est-ce que tu es prêt à négocier dans ton quotidien, dans tes comportements, dans tes habitudes de vie qui doivent et peuvent être facilement modifiables? Même chose, tu peux prendre le temps d'écrire ce qui est facilement modifiable jusqu'à ce qui est le plus difficilement modifiable dans tes habitudes de vie, dans tes comportements. Et troisième étape, si le cœur t'en dit, tu peux, avant l'épisode numéro 8, commencer à chercher, à te renseigner sur des thérapies, des outils qui pourraient t'aider à changer. Dans l'épisode 8, nous verrons ensemble des outils très concrets dont je te parlerai, mais peut-être ce que tu peux faire, c'est ce que tu aimes. Par exemple, est-ce que tu es quelqu'un qui est en capacité d'aller vers une thérapie qui te demande un grand travail d'introspection en silence, par exemple? Ou est-ce que tu as besoin plus d'aller vers une thérapie énergétique ou bien encore corporelle? En attendant, je te souhaite vraiment beaucoup d'inspiration pour pouvoir prendre ce temps d'écriture. La meilleure façon d'y arriver, c'est d'ores et déjà planifier dans ton agenda ce temps d'écriture. Découpe ce temps d'écriture peut-être en 3 fois, de façon à ne pas t'épuiser. Place dans ton agenda 3 fois 30 minutes pour ce temps d'écriture dédiée à tes blocages, dédiée au changement. Et je voudrais simplement terminer en te disant ceci. Nous avons tous et toutes en nous le pouvoir de changer. Et ce changement est un devoir que nous devrions tous et toutes remplir pour les générations futures. Le changement intérieur est un acte de responsabilité envers le vivant. Merci beaucoup pour ton écoute. Prends soin de toi. Intègre tranquillement, paisiblement tout ce qui vient d'être dit. Réécoute, si tu le souhaites, cet épisode en prenant des notes. Et moi, je te dis à dans 15 jours pour la pleine lune et l'épisode numéro 8. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.